Chapitre 12. Question. C'est merveilleux. Ce que tu viens de dire est tout simplement merveilleux. Je souhaite que le monde puisse recevoir ça. J'aimerais tant que le monde puisse comprendre, puisse croire. Réponse. Ce livre va servir à cela. Tu es en train de servir à cela. Ainsi, tu joues un rôle. Tu joues ton rôle dans l'élévation de la conscience collective. C'est ce que tout le monde doit faire. Question. Oui. Pouvons-nous passer à un autre sujet à présent? Je crois qu'il est important que nous parlions de cette attitude, de cette idée des choses que tu as dit, il y a un certain temps, vouloir présenter de façon équitable. L'attitude à laquelle je fais référence, c'est cette attitude entretenue par bien des gens, selon laquelle les pauvres ont suffisamment reçu que nous devons cesser de taxer les riches, ce qui les pénalise, en effet, de travailler dur et de réussir pour fournir encore davantage aux pauvres. Ces gens croient que si les pauvres sont pauvres, c'est fondamentalement parce qu'ils veulent l'être. Beaucoup ne tentent même pas de se relever. Ils préfèrent sucer la mamelle du gouvernement plutôt que d'assumer leur propre responsabilité. Bien des gens qui croient que la redistribution de la richesse, le partage, est un mal socialiste. Ils citent le manifeste communiste de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, comme preuve de l'origine satanique de l'idée d'assurer la dignité humaine fondamentale à tous à travers les efforts de chacun. Ces gens croient au « chacun pour soi ». Si on leur dit que ce concept est froid et sans cœur, ils se réfugient dans l'affirmation que l'occasion frappe à la porte de chacun de façon égale. Ils prétendent que personne n'est affligé par un désavantage inhérent, que si eux ont pu réussir, chacun peut le faire, et que si quelqu'un ne peut pas, c'est bien sa faute à lui. Réponse. Tu crois que c'est une pensée arrogante, enracinée dans l'ingratitude? Question. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu crois? Réponse. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Ce n'est qu'une pensée. Il n'y a qu'une question pertinente concernant cette pensée ou n'importe quelle autre. T'est-il utile de l'entretenir? Par rapport à qui tu es et à qui tu cherches à être, cette pensée te sert-elle? En regardant le monde, c'est la question que les gens doivent se poser. Est-ce que cela nous sert d'entretenir cette pensée? J'observe ceci. Il y a des gens, en effet, des groupes entiers de gens, qui sont nés dans ce que tu appelles le désavantage. C'est vrai et vérifiable. Il est également vrai qu'à un niveau métaphysique très élevé, personne n'est désavantagé, entre guillemets, car chaque âme crée pour elle-même les gens, les événements et les circonstances qui sont nécessaires pour accomplir ce qu'elle souhaite accomplir. Tu choisis tout, tes parents, ton pays de naissance, toutes les circonstances entourant ton retour. De même, tout au long des jours et des époques de ta vie, tu continues de choisir et de créer des gens, des événements et des circonstances conçues pour t'amener les occasions exactes, bonnes et parfaites, que tu désires maintenant afin de te connaître tel que tu es véritablement. Autrement dit, personne n'est désavantagé, étant donné ce que l'âme souhaite accomplir. Par exemple, l'âme peut souhaiter travailler avec un corps handicapé, ou dans une société répressive, ou sous d'énormes contraintes politiques ou économiques, afin de produire les conditions voulues pour accomplir ce qu'elle a décidé de faire. Alors, nous voyons que les gens affrontent vraiment des désavantages, au sens physique, mais que ce sont, en réalité, les conditions bonnes et parfaites du point de vue métaphysique. Question. D'un point de vue pratique, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Devrions-nous offrir de l'aide aux désavantagés, ou tout simplement voir qu'en vérité, ils ne sont que là où ils veulent être et ainsi leur permettre de travailler leur propre « karma » entre guillemets? Réponse. Cette question est très bonne et très importante. Rappelle-toi tout d'abord que tout ce que tu penses, dis et fais est un reflet de ce que tu as décidé à propos de toi-même. C'est une affirmation de « qui tu es ». Il y a un acte de création dans le fait que tu décides qui tu veux être. J'y reviens sans cesse, car c'est tout ce que tu fais ici, c'est ton occupation. Il ne se passe rien d'autre, l'âme n'a aucun autre programme. Tu cherches à être et à faire l'expérience de qui tu es vraiment et à le créer. Tu es en train de te créer à nouveau, à chaque instant de maintenant. Alors, dans ce contexte, lorsque tu rencontres une personne qui paraît désavantagée, en termes relatifs tels qu'observés à l'intérieur de ton monde, la première question que tu dois te poser, c'est « Qui suis-je et qui est-ce que je choisis d'être en relation avec cela ?» Autrement dit, la première question, lorsque tu rencontres quelqu'un d'autre, en toutes circonstances, devrait toujours être « Qu'est-ce que je veux maintenant ?» Entends-tu cela ? Ta première question, toujours, doit être « Qu'est-ce que je veux maintenant ?» Et non « Qu'est-ce que l'autre personne veut maintenant ?» Question. C'est l'idée la plus fascinante que j'ai jamais reçue à propos de la façon de fonctionner dans les relations humaines. Elle va également à l'encontre de tout ce qu'on m'a jamais enseigné. Réponse, je sais. Mais la raison pour laquelle tes relations sont si désastreuses, c'est que tu essaies toujours de te figurer ce que l'autre personne veut et ce que les autres gens veulent, au lieu de ce que tu veux vraiment. Alors, tu dois décider s'il faut le leur donner. Et voici comment tu décides. Tu décides en jetant un regard sur ce que tu peux vouloir de leur part. S'il n'y a rien que tu penses vouloir d'eux, ta première raison de leur donner ce qu'ils veulent disparaît, et ainsi tu le fais rarement. Si par contre, tu vois qu'il y a quelque chose que tu veux ou que tu peux vouloir d'eux, alors ton mode de survie entre en jeu et tu essaies de leur donner ce qu'ils veulent. Alors, tu en gardes du ressentiment, surtout si l'autre personne ne finit pas par te donner ce que tu veux. Dans ce troc, tu établis un équilibre très délicat. Réponds à mes besoins et je répondrai aux tiens. Mais le but de toute relation humaine, les relations entre les nations, autant que les relations entre les individus, n'a rien à voir avec cela. Le but de ta sainte relation avec chaque autre personne, endroit ou chose, n'est pas d'imaginer ce que l'autre veut ou ce dont il a besoin, mais ce que tu veux ou désires maintenant afin de grandir, afin d'être qui tu veux être. C'est pourquoi j'ai créé la relation avec les autres choses. Si ce n'était de cela, tu aurais pu continuer de vivre dans le vide, dans le tout éternel d'où tu viens. Mais dans le tout, tu ne fais qu'être et tu ne peux faire l'expérience de ta conscience en tant que quoi que ce soit en particulier parce que, dans le tout, il n'y a rien que tu ne sois pas. Alors j'ai conçu pour toi une façon de te créer à nouveau et de savoir qui tu es dans ton expérience. Je l'ai fait en te fournissant, petit 1, la relativité, un système au sein duquel tu pouvais exister en tant que chose en relation avec une autre chose. Petit 2, l'oubli, un processus par lequel tu te soumets volontairement à l'amnésie totale afin de ne pas savoir que la relativité n'est qu'un stratagème et que tu es tout cela. Petit 3, la conscience, un état d'être dans lequel tu crois jusqu'à ce que tu atteignes la pleine conscience, devenant alors un Dieu véritable et vivant, créant et faisant l'expérience de ta propre réalité, étendant et explorant cette réalité, changeant et recréant cette réalité à mesure que tu étends ta conscience jusqu'à de nouvelles limites, ou, dirons-nous, sans aucune limite. Dans ce paradigme, la conscience est tout. La conscience, tout ce dont tu es véritablement conscient, est la base de toute vérité et ainsi de toute véritable spiritualité. Question. Mais quel est le but de tout cela ? D'abord, tu me fais oublier qui je suis afin que je puisse me rappeler qui je suis. Réponse. Pas tout à fait. Afin que tu puisses créer qui tu es et qui tu veux être. C'est l'acte de Dieu étant Dieu, c'est moi étant moi, à travers toi. C'est le sens de toute la vie. À travers toi, je fais l'expérience d'être qui et ce que je suis. Sans toi, je pourrais le savoir, mais pas en faire l'expérience. Savoir et faire l'expérience, ce sont deux choses. Je choisis l'expérience à chaque fois. En effet, c'est ce que je fais à travers toi.